Bien, mais rebonjour à toutes et à tous. Après cette pause conviviale et ensoleillée, je suis sûr que nous sommes pleins d'énergie pour reprendre les travaux et passer à des aspects davantage au droit privé. Et on va commencer avec un groupe qui va nous parler de l'apport de la loi au droit des données personnelles. Donc c'est avec plaisir que nous donnons la parole à Mesdames Alexia Ayot, Chloé Deben et Laura Laillé. Nous vous écoutons.
Alors bonjour à tous. Avant la promulgation de la loi, Axel Le Maire a rappelé que la data est le carburant de l'économie numérique. En effet, tous les jours, en tant qu'internautes, nous sommes confrontés à la communication de nos données personnelles en ligne, que ce soit par une inscription sur un réseau social ou en faisant de simples achats sur Internet, mais beaucoup ignorent comment sont réellement traitées toutes ces données. Rappelons qu'en France, la principale loi ayant pour objet la protection de ces données personnelles est la loi du 6 janvier 1978, Informatique, Fichiers et Liberté. Mais aujourd'hui, dans notre société ultra-connectée, le numérique a un caractère transfrontière, ce qui emporte d'importants enjeux pour nos données personnelles. Il était donc nécessaire de renforcer les moyens juridiques mis à disposition des internautes. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui décidé de vous parler des apports de la loi pour une République numérique au droit des données personnelles. Et à cette fin, nous vous présenterons quatre points. La loi, dans un premier temps, prévoit la mise en place d'un droit à l'autodétermination informationnelle qui consacre un certain pouvoir pour les individus. La loi prévoit également de nouveaux droits en faveur des personnes physiques et également de nouvelles dispositions en faveur de la CNIL. Puis nous mettrons en parallèle la loi pour une République numérique et le règlement européen, car nous le verrons, il y a de nombreuses incohérences entre les deux textes, entraînant des conséquences qui auraient facilement pu être évitées par le législateur. Mais avant tout, il convient de faire un bref rappel de ce qu'est une donnée personnelle.
Alors, selon les articles 2 de la loi du 6 janvier 1978 et de la directive européenne du 24 octobre 1995, les données personnelles sont définies comme toute information portant sur une personne physique, identifiée ou identifiable, directement ou indirectement. Les données personnelles doivent faire l'objet d'un traitement défini aux mêmes articles, comme toute opération ou ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé. Il y a deux types de traitement, un traitement automatisé et manuel. Ces données personnelles doivent être protégées. À quelle finalité? À première vue, il semble que ce soit la protection de la vie privée et de la vie personnelle qui prennent le dessus, comme son introduction dans le titre 2, chapitre 2 sur la protection de la vie privée en ligne dans la loi pour une République numérique. Cependant, il faut voir au-delà de ceci, et c'est la protection des droits et libertés fondamentaux qui doit primer. C'est pour ça que le législateur a consacré un droit à l'autodétermination informationnelle afin de renforcer cette protection.
Cet apport se concrétise par l'ajout d'un deuxième alinéa à l'article 1er de la loi Informatique, Fichiers et Libertés de 1978. Dorénavant, cet article proclame que toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant. Donc, à partir de cette disposition, nous comprenons donc que le législateur vient affirmer le principe à l'autodétermination, c'est-à-dire la libre disposition des données, avec la volonté que l'individu puisse librement développer sa personnalité dans l'univers du numérique. Mais toutefois, ce nouvel instrument juridique pose la question du régime juridique de la donnée à caractère personnel. Mais avant tout, il faut savoir que le législateur français n'a pas été le précurseur dans l'affirmation de ce principe, mais ce droit a été reconnu par une décision antérieure rendue par la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 15 décembre 1983, dans un contexte de vie démocratique et donc en rapport avec l'autorité de l'État. Ici, les juges allemands ont proclamé que la Constitution garantit en principe la capacité à l'individu de décider de la communication et de l'utilisation de ses données à caractère personnel. Les pouvoirs publics vont donc s'inspirer de cet arrêt. Dans un premier temps, c'est le Conseil d'État qui rend un rapport en 2014 dans lequel il fait une recommandation pour intégrer ce droit au sein de la législation française. Mais ici, le Conseil réalise une interprétation un peu détournée de l'autodétermination, puisqu'il l'amène volontairement et directement sur le terrain des données personnelles appréhendées dans la sphère numérique, à la différence de ce qu'ont proclamé les juges allemands. Par la suite, en 2015, c'est la Commission de réflexion sur les droits et les libertés à l'âge du numérique qui fait également la même proposition pour reconnaître un tel droit, qui permettrait alors une plus grande autonomisation de l'individu. Il a donc fallu attendre l'article 54 de la loi pour une République numérique pour voir consacrer un tel droit, qui permettrait donc du coup de renforcer positivement l'ensemble des droits déjà établis au sein de la loi de 1978. Donc pourquoi avoir reconnu un tel droit? Les pouvoirs publics sont partis d'un constat qu'il y a une perte générale de la maîtrise des données par les internautes eux-mêmes. C'est pourquoi l'État se doit d'intervenir et donc de reconnaître un tel instrument juridique aux mains des individus. Le but de cette intervention, c'est que l'individu puisse développer librement sa personnalité par le biais d'un rôle actif. Ça veut donc dire qu'à contrario, si l'État ne donne pas les moyens à l'individu de maîtriser ses données dans l'univers du numérique, alors cet individu ne pourra pas s'épanouir librement et développer sa personnalité. La France désire alors un internaute actif et un internaute acteur qui doit davantage s'impliquer dans la maîtrise de ses données à caractère personnel. L'individu peut alors s'assurer des usages qui sont faits et qui sont collectés par les responsables de traitement, c'est-à-dire qu'il est en droit de savoir qui détient ces informations, à quelle fin, comment ces données sont collectées et utilisées. L'individu internaute est donc investi d'un véritable rôle et d'une certaine responsabilité. Nous avons donc un renforcement de l'obligation de consentement et un principe, et le principe de transparence incombant alors aux responsables de traitement. Pour finir, l'affirmation de ce droit pose la question du régime juridique de la donnée à caractère personnel. Deux conceptions viennent s'opposer ici. Une conception extra-patrimoniale, telle qu'il a été affirmé dès l'origine de 1978. Et c'est également une thèse soutenue par le Conseil d'État, qui estime que les données personnelles sont des droits attachés à la personne la concernant elle-même. Puis de l'autre, une conception patrimoniale, telle que la conception anglo-saxonne. Cette logique pourrait être avancée dès lors que les données personnelles peuvent être considérées comme étant une activité mercantile, ce qui pourrait laisser croire au caractère de propriété, dès lors que la commercialité des données n'est pas illicite. La loi pour une république numérique fait le choix d'écarter cette thèse et de confirmer la conception extra-patrimoniale de la donnée. Nous allons vous présenter à présent le deuxième apport de cette loi, à savoir la consécration de nouveaux droits.
Alors, en effet, face à la place occupée par le numérique dans la vie d'un internaute aujourd'hui, le législateur a souhaité répondre aux interrogations des internautes sur la protection de leurs droits sur Internet. Dès lors, il a consacré de nouveaux droits, tels que le droit à l'oubli en faveur des mineurs, l'introduction d'un droit à la mort numérique et un droit à la portabilité et à la récupération des données. Aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus de l'omniprésence des mineurs sur les réseaux sociaux, les blogs et les sites de commerce. Ils divulguent donc leurs données personnelles avec une forme d'insouciance et d'inconscience face aux dangers que peut impliquer une telle divulgation. Dès lors, ils n'ont absolument aucune maîtrise du traitement qui peut en être fait. C'est pour cela que le législateur, dans son article 63 de la loi, a introduit un droit à l'oubli pour les mineurs. Ce droit consiste donc en l'effacement de la donnée. Cette donnée en cause doit avoir été collectée lorsque la personne était mineure, donc on rappelle vraiment que ce droit est exclusivement réservé aux mineurs. La demande doit être faite auprès du responsable de traitement, et si celui-ci ne répond pas au bout d'un délai de 1 mois, alors on peut saisir la CNIL qui doit se prononcer dans un délai de 3 semaines. Le législateur a voulu instaurer une procédure accélérée afin de pallier la vulnérabilité des mineurs. Il y a 5 cas où le droit à l'oubli ne s'applique pas. Je vais vous en citer 2. L'exercice du droit à la liberté d'expression et à la liberté d'information. Le respect d'une obligation légale ou d'une mission d'intérêt général nécessitant obligatoirement le traitement d'une donnée. Et le reste. Après avoir introduit un droit à l'oubli pour les mineurs, le législateur s'est intéressé à la question des données personnelles après le décès d'un individu. En effet, on se rend compte que les données personnelles survivent toujours une fois que la personne est décédée, donc sur le net. C'est pour ça que dans son article 63, il a mis en place un dispositif permettant de régir le sort de ces données après la mort. Il y a donc 2 directives distinctes, des directives générales qui concernent l'ensemble des données personnelles de la personne. Elles peuvent être enregistrées auprès d'un tiers de confiance numérique certifié par la CNIL. Ensuite, nous avons donc des directives particulières qui, elles, concernent le traitement des données personnelles spécifiques. Elles sont enregistrées auprès d'un responsable de traitement et il est nécessaire d'obtenir le consentement spécifique de la personne qui peut éventuellement résulter de l'acceptation des conditions générales d'utilisation. Également, il est possible de désigner une personne qui peut se charger d'exécuter ces directives, autrement ce sont aux héritiers de le faire. Il y a par exemple sur Facebook également, ils ont mis en place une sorte de testament numérique où l'on désigne une personne qui pourra se charger de supprimer notre compte une fois que nous serons décédés. Après donc avoir introduit ces deux nouveaux droits, le législateur s'est posé la question de la portabilité des données. Donc comme on a pu le voir ce matin avec l'intervention sur l'économie de la donnée, il est impossible de changer d'opérateur en transportant avec nous nos données. Donc le législateur a décidé dans son article 48 de faciliter ce transfert donc d'un opérateur A vers un opérateur B à tout moment, en toutes circonstances et sans justification. Cet article s'applique donc pour les services de courrier électronique, le cloud et les services de communication au public en ligne. Cependant, l'article 48 soulève deux problématiques. Il y a une exonération qui est fixée par décret pour les fournisseurs de services de communication au public en ligne dont le nombre d'utilisateurs, de comptes d'utilisateurs s'étant connecté au cours de ces 6 derniers mois est inférieur à un certain seuil. Le décret n'a toujours pas été établi, du coup le seuil n'existe pas. Du coup, on ne peut toujours pas appliquer cette exonération. Ensuite, à la lecture de l'article, on se rend compte qu'il renvoie expressément aux conditions prévues à l'article 20 du règlement européen du 27 avril 2016. Et plus loin, on aperçoit qu'il n'entrera en vigueur qu'à partir du 25 mai 2018, soit lors de l'entrée en vigueur du règlement. Il y a donc une portée normative limitée de l'article. Cependant, on peut quand même se rendre compte que le législateur a anticipé la transposition de l'article 20 du règlement européen. Dès lors, après avoir consacré de nouveaux droits, le législateur a voulu renforcer les pouvoirs de la CNIL afin de protéger au mieux les individus et leurs données personnelles.
En effet, pour pouvoir faire respecter toutes ces nouvelles dispositions que nous venons de voir, il était avant tout essentiel de renforcer les pouvoirs de l'autorité de régulation en charge de la protection des données personnelles, c'est-à-dire la CNIL. À ce titre, la loi prévoit 3 points. Donc, la loi prévoit de renforcer les pouvoirs de sanction de la CNIL ainsi que ses compétences, mais également d'effectuer un certain rapprochement avec la CADA. Concernant tout d'abord le montant de la sanction pouvant être infligée par la CNIL, dans la loi de 78 n'était prévu qu'un plafond maximal de 150 000 euros et 300 000 en cas de récidive, mais ce faible montant ne donnait aucune crédibilité à la CNIL et ne lui permettait pas de faire respecter ce qu'elle a pour mission de défendre. La Commission elle-même avait plaidé pour un renforcement de ses pouvoirs qui n'était plus du tout adapté à l'économie actuelle où les grands groupes préféraient payer des sommes qui sont modestes pour eux plutôt que de se conformer aux législations nationales. Du coup, la loi pour une République numérique est venue pallier ce problème en fixant un plafond maximal de 3 millions d'euros. Ce montant beaucoup plus dissuasif permet enfin à la CNIL d'affirmer sa position. La loi prévoit également de nouveaux critères que la formation restreinte devra prendre en compte lors de la fixation du montant. Elle devra par exemple prendre en compte la manière dont le manquement a été porté à sa connaissance, si le responsable l'a informé lui-même ou non. La loi prévoit également une sanction particulièrement dissuasive. Il s'agit du fait que la formation restreinte pourra ordonner au responsable sanctionné d'informer chaque utilisateur victime individuellement et à ses frais de la sanction qui lui aura été infligée. Outre sa vocation à informer la victime, cette disposition a également vocation à sanctionner une fois de plus le fautif, car informer toutes ces personnes individuellement peut coûter énormément d'argent. Ensuite, concernant l'élargissement des compétences de la CNIL, quelques nouveautés ont été apportées ici. Avant l'adoption de la loi, la CNIL ne pouvait être saisie que pour des questions relatives à la protection des données personnelles. Mais avec la loi adoptée, la saisine sera plus systématique. La CNIL pourra être saisie pour avis sur la protection, mais également par rapport au traitement des données personnelles. La CNIL pourra ainsi apporter son expertise au pouvoir public et ses avis seront indispensables en la matière. D'autre part, la loi prévoit que la CNIL doit conduire une réflexion sur l'évolution des nouvelles technologies et également promouvoir les technologies protectrices de la vie privée. Ici, le législateur ne cantonne plus la CNIL dans son rôle traditionnel mais voit plus loin, bien que la CNIL exerçait déjà officieusement ses missions. Enfin, la loi prévoit une modification concernant un certain rapprochement avec la CADA, qui est, rappelons-le, la commission d'accès aux documents administratifs. Donc la loi de 78 ne prévoyait une composition de la CNIL qu'à 17 membres, mais avec la loi adoptée, il est prévu l'ajout de droit d'un 18e membre au sein de la CNIL. Les présidents de chaque commission devront siéger dans l'une et l'autre des commissions et se réunir en session unique pour travailler sur des sujets d'intérêt commun. Le législateur a profité de l'adoption de cette loi pour régler la question de la fusion entre ces deux institutions, mais a préféré mettre en place plutôt une collaboration, une participation croisée entre ces deux commissions. L'autre objectif de ce rapprochement est de faciliter les relations entre les deux institutions, qui sont souvent amenées à se prononcer sur des problématiques identiques. La CADA était en effet amenée à se prononcer sur des problématiques de communication ou réutilisation de documents comportant parfois des données personnelles. Cela devrait donc diminuer le risque d'avis ou d'actions divergentes en matière de numérique. Donc si l'on peut aujourd'hui dire que la CNIL dispose enfin de moyens pour protéger réellement nos données personnelles, le législateur, sur certains points, n'a pas tenu compte du règlement européen impliquant un certain élément de faiblesse.
Donc, en effet, à la lecture de la loi pour une République numérique, nous pouvons apercevoir que c'est un texte qui est déjà inadapté et dépassé concernant le droit des données personnelles au regard du futur règlement européen adopté le 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes qui devra être en vigueur en mai 2018. Donc, nous avons remarqué quelques incohérences telles que l'article 34 qui permet de renforcer le système déclaratif auprès de la CNIL alors que le règlement européen lui prévoit la suppression de ce système. Dans le même sens, alors que la sanction de la CNIL qu'elle pourra édicter a été rehaussée à hauteur de 3 millions d'euros, le règlement lui prévoit une sanction plus forte d'un montant de 4% de chiffre d'affaires mondial du responsable de traitement. Donc aussi, le gouvernement devra rendre un rapport avant le 30 juin 2017 au Parlement sur l'avancée des transpositions des dispositions européennes au sein du système français.
On remarque donc qu'il y a un problème au niveau du calendrier concernant la loi, c'est-à-dire que le législateur avait connaissance du contenu du règlement européen avant son adoption en octobre 2016. Dès lors, il y a une nécessité de réécrire la loi de 1978 au regard du règlement européen. Donc on peut constater qu'il y a une forme d'obsolescence de ce texte. Merci beaucoup de votre attention.